Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Tout va bien ?
Mieux serait indécent.
Ça va.
Ça va ? Eh ben écoutez, ça fait plaisir. On va directement plonger dans ce qui fait évidemment l'actualité, ce dans quoi vous vous êtes plongé, Gilles, avec la dernière vague de votre grande étude sur l'état d'esprit des Français et l'état des lieux de cette campagne ou de cette pré-campagne présidentielle. Vous nous le direz dans un instant. Tout de suite, le président de la République, il était à la télévision, c'était mercredi dans une émission Où va la France ? Point d'interrogation diffusé sur TF1 et LCI. Il défendait son bilan, il a présenté une forme de mea culpa, il a revisité plusieurs moments clés de son quinquennat. Extrait.
Quelque chose est en train de changer, qu'il faut continuer d'accompagner, de faire advenir, qui est ce futur possible, c'est-à-dire d'avoir une nation forte, entreprenante, qui éduque mieux et qui est plus juste.
Alors je parlais justement d'une sorte de bilan et nous avons volontairement choisi le moment ou l'un des moments où il parle de l'avenir et où il se projette dans la France de demain, celle qu'il imagine peut-être diriger s'il se représente, secret de Polichinelle ou pas, on va en débattre. Natacha Polony.
Peut-être faut-il commencer par parler de la nature de cette émission elle-même qui est en fait assez surprenante. Certes, on est habitué aux interventions de président de la République, pas encore candidat, mais quand même candidat. On se souvient tous, et ça a été rappelé toute la semaine, de Nicolas Sarkozy. Pour autant, là, il y a quelque chose de très bizarre, parce que c'était bien sur TF1, mais on avait l'impression de voir l'émission Une ambition intime. C'est-à-dire qu'il y avait un côté dans le jeu d'acteur, dans la position des caméras, la façon de s'apesantir sur un regard, sur un tremblotement de la voix. Il y avait quelque chose quand même d'une entrée de l'émotion dans le champ du politique qui était peut-être un tout petit peu trop surjoué, je pense. Alors évidemment, la fusion TF1-M6, c'est formidable et ça réjouit. Donc c'est une façon aussi de dire au président de la République que TF1 lui offre ce moment. Mais bon, c'était très long hein, pour un moment comme ça.
C'était 2 heures et il y a une version longue comme les films cultes Apocalypse Now, quand on parle du Director's Cut. Pour les plus motivés, ils peuvent regarder ça sur LCI.
Oui, motivé, oui.
Et non pas 2 heures, mais 3h30 d'émission. En tout cas, 4 200 000 Français ont suivi cette émission. C'est évidemment inférieur aux allocutions solennelles du président de la République au cœur de la crise sanitaire. Gilles, vous l'avez regardé
attentivement. Emmanuel Macron avait, je crois, plutôt réussi ses allocutions passées, même si on avait dit par exemple que la toute dernière était un peu trop technique. Cet entretien, Natacha a dit, il est bizarre, j'ajouterais, c'était étrange.
Bizarre, étrange, pourquoi ?
Mais c'est vraiment le sentiment que j'ai eu pendant tout l'entretien, et je n'arrivais pas vraiment à comprendre pourquoi, et en fait je crois que ça a toujours oscillé entre deux pôles. Il y avait deux statues. Vous l'avez dit, c'était le président qui était censé parler, mais tout le monde ne voyait que le candidat. Et d'ailleurs, le fait que l'audience soit plutôt celle d'un candidat que celle d'un président montrait que les Français ne s'y trompaient pas. Il y avait deux tonalités. La sincérité, une volonté de sincérité. Alors, Natacha a dit c'était l'entrée d'une émotion surjouée, donc on peut y croire ou pas. Mais ce qui est compliqué, c'est que la deuxième tonalité, c'était la roublardise. Je ne fais pas de politique.
C'était magique cette phrase.
Avec le petit sourire qui montre que il sait que il dit quelque chose que les gens ne vont pas croire. Mais c'est très compliqué d'être en même temps sincère et roublard.
Mais tous les présidents ont tenu ce discours.
Oui, mais quand on fait dans le même exercice l'exercice de sincérité et de roublardise, c'est difficile. C'est plus difficile de convaincre. Et puis enfin, il y avait toujours une oscillation entre deux postures. L'humilité, vous avez dit les mea culpa, c'était vrai sur des comportements personnels, ça a été vrai parfois sur un ou deux sujets de politique.
Sur des petites phrases.
Et dans le même temps, quelque chose qui est très constitutif du macronisme, le mythe de l'année zéro. Tout a commencé en 2017. C'est inédit, ce n'est jamais arrivé. Il y a ce discours répétitif et là aussi c'est compliqué de tenir en même temps le discours de l'humilité et de l'année zéro.
Encore une question de forme avant de parler davantage du fond. Natacha, vous regrettiez que le président de la République prenne la parole de manière solennelle depuis l'Élysée et sans avoir d'intervieweur face à lui. Là, il avait Audrey Crespo-Mara, il y avait Darius Rochebain et donc c'était une interview et c'était davantage satisfaisant à vos yeux comme forme, comme exercice, que la prise de parole sans contradicteur ?
Avec tout le respect que je dois à ces deux journalistes, je ne peux pas dire que j'ai été bouleversée par la, comment dire, le caractère piquant des questions qui ont été les leurs, par le droit de relance exercé quand le président de la République esquivait tel ou tel problème. Et je pense qu'il y avait surtout, en effet, une discussion charmante et amicale. C'est pour ça que j'ai parlé de l'émission Une ambition intime. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on était dans le champ du politique au sens où je l'entends. D'ailleurs, on était beaucoup dans le champ de la communication. Je veux dire, l'accumulation du verbe « j'ai appris » qui est un vieux truc de communication politique. Les mea culpa, je ne sais pas combien de fois Emmanuel Macron a fait son mea culpa. C'est à peu près, je pense qu'il y a un concours avec Nicolas Sarkozy sur le thème « j'ai changé ». Mais là, sur le côté « j'ai blessé », etc., il faudrait faire le compte depuis le début du quinquennat, du nombre de fois où il s'est excusé d'avoir blessé. Donc il y avait comme ça différents éléments. Pour ce qui est du politique, c'est-à-dire de la question de savoir vers quoi il veut emmener la France, qui était quand même censé être le sujet.
Oui.
Je vous avoue que je ne suis pas totalement plus éclairée. En revanche, on a bien compris que son bilan était absolument extraordinaire, malgré, en effet, comme l'a dit Gilles, les faits extraordinaires qui se sont passés pendant son quinquennat.
Gilles, on a entendu le président de la République dire, avouer qu'il aimait mieux les Français aujourd'hui qu'hier. Comment est-ce que vous avez reçu cette phrase-là ?
On est je pense, deux éléments. Le premier, c'est que ce quinquennat a été marqué. Je pense que la vraie césure du quinquennat, c'est pas la crise sanitaire, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est que après le mouvement des Gilets jaunes, que les réformes qui avaient été engagées ont quand même, pour l'essentiel, été interrompues. Et une partie de l'origine de ce mouvement tient dans la relation qui s'est brisée avec une partie des Français. Et c'est ce fil-là que Emmanuel Macron a essayé de renouer. Et dans le même temps, la percée d'Éric Zemmour, qui ne parle que de la France et qui ne parle pas des Français, l'incitait sans doute davantage à être aussi auprès des Français. Donc je crois que c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. J'ajoute, Natacha disait, on l'attendait sur son projet pour la France. Ça viendra peut-être le jour de sa candidature. Là, l'émission était quand même centrée sur le bilan et je pense que c'était pas complètement une émission pour rien. Non pas sur la partie purge, parce que c'est vrai que ça fait, et purge au sens de, non pas que c'était une émission ennuyeuse, mais que c'était une émission qui était faite pour clore ce chapitre de... pour solder les comptes, parce que...
La polysémie est intéressante quand même, cher Gilles.
C'est vrai que ça fait, là, je ne sais pas combien de fois que Emmanuel Macron le fait. Mais je crois que malgré tout, c'était une émission qui était intéressante, parce qu'il y avait des choses qu'on apprenait sur le passé, pas tellement de ce que disait Emmanuel Macron, mais moi j'ai été très frappé des questions qui étaient posées aux Français sur ce qu'ils retenaient du bilan d'Emmanuel Macron. Et on voyait qu'il y avait des impressions, mais qu'il n'y avait aucune réforme qui avait été mémorisée. Aucune. Et c'était pas inintéressant, malgré tout, sur un ou deux points sur le futur. Et notamment, il a cette fois fait un pas supplémentaire de clarification dans la réforme du système des retraites, en abandonnant cette fois-ci de manière explicite la réforme par points, la réforme systémique qui était emblématique de sa première campagne.
Jusqu'à quand pourra-t-il rester dans l'ambiguïté, président, pas encore candidat ?
Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que il va encore...
Non, mais on se souvient par exemple de Nicolas Sarkozy qui, en 2012, disait qu'il lui avait manqué 15 jours pour l'emporter. On se souvient de François Mitterrand qui, en 1988, s'était déclaré tard, très tard, en mars, et donc juste avant le mois d'avril et les élections. C'est une question de timing aussi. Donc là, il prépare sans doute cette annonce.
Et là, les élections présidentielle arrivera très tôt. Donc, il faut bien voir que par rapport aux dernières élections...
Oui, il y a 15 jours de moins, cette fois-ci.
Voilà, il y a 15 jours de moins. Alors, donc, tout l'équilibre va consister pour lui à profiter au maximum du début de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, sans pour autant trop tarder. Je pense qu'il doit déjà avoir établi un calendrier, disons, à peu près... Qui risque de nous amener vers le mois de février, j'imagine, mais je ne saurais pas en dire plus. Simplement, je pense que nous allons avoir beaucoup d'interventions solennelles et passionnantes sur le rôle moteur de la France dans l'Union européenne.
Même question, Gilles.
Oui, c'est le genre de situation, je remets ma casquette ancienne de proximité avec les politiques, dans lesquelles il faut à la fois avoir une fourchette, un temps dans lequel on va déclarer sa candidature, et après avoir le sens du moment et être capable d'accélérer ou de ralentir en fonction de l'actualité. Donc, tous les présidents se sont déclarés tard. À chaque fois, les autres candidats trépignaient en disant quand est-ce qu'il vient. Tous les candidats battus considèrent que avec 15 jours de plus, ça aurait été beaucoup mieux. Donc là, on est dans du grand classique.
Et aucun n'a été réélu hors période de cohabitation, hors Jacques Chirac et François Mitterrand. C'est donc un cas qui sera intéressant à observer. Est-ce que l'histoire se répète ou est-ce que ce sera justement, encore une fois, une campagne inédite? Histoire à suivre, évidemment, le duel continue.
Le grand face-à-face, le duel.
Le président de la République n'est donc toujours pas officiellement candidat, mais vous vouliez, Natacha et Gilles, faire une sorte de bilan d'étape de cette campagne présidentielle qui a maintenant commencé, qui en sont les gagnants, qui en sont les perdants. Rien n'est joué, mais on a vu au cours des dernières semaines, des derniers mois, des phénomènes apparaître et des figures émerger. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais parmi ceux qui se sont imposés, ceux qu'on peut qualifier de gagnant peut-être, vous allez nous le dire, il y avait cela.
La France ensemble, la France encore, la France toujours, voilà ce que je veux, voilà ce que je vous propose, voilà pourquoi je me bats avec toute la détermination d'une Française libre.
Si je gagne cette élection, ce ne sera pas une alternance de plus, mais le début de la reconquête du plus beau pays du monde.
Valérie Pécresse, puis Éric Zemmour à Villepinte, évidemment, et du côté des perdants ou de ceux qui ont du mal à émerger.
Écoutez. L'union, l'histoire le montre, c'est ce qui fait la gauche. Sans union, il n'y a pas de destin pour la gauche.
Le sujet, désolé, ça n'est pas de sauver le Parti Socialiste. Le sujet, c'est de sauver notre pays.
Anne Hidalgo, puis Yannick Jadot, du côté de ceux qui ont du mal à émerger ou à s'imposer dans les sondages. Le choix, je ne sais pas s'il est arbitraire, mais est-ce qu'on peut à peu près situer les choses comme ça, Gilles ?
On peut. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses dans cette pré-campagne. Si on redéroule le film depuis le début du mois de septembre jusqu'à cette mi-décembre, c'est une nouvelle fois une campagne dans laquelle les surprises se sont accumulées. Et avant d'en venir au candidat, si je devais désigner un gagnant et un perdant, je dirais le gagnant, c'est l'incertitude. Je l'ai dit, il y a eu beaucoup de surprises et c'est ce que montre l'enquête que nous publions aujourd'hui même avec Le Monde, le Cevipof et Ipsos, une mobilité électorale absolument sans précédent. En l'espace d'un mois et demi, puisque la vague précédente datait du mois d'octobre, de la mi-octobre, vous avez 30% de Français qui ont changé d'avis.
Changer d'avis,
ça veut dire que pour la moitié d'entre eux, ils disaient qu'ils voulaient s'abstenir et aujourd'hui ils disent qu'ils veulent voter, ou ils disaient qu'ils étaient sûrs d'aller voter et aujourd'hui ils veulent s'abstenir. Et pour une autre moitié d'entre eux, donc 14%, ils ont changé de candidat, ils sont passés d'un candidat à un autre. 30% en l'espace d'un mois, c'est absolument, absolument fou. Il y a 20 ans ou il y a 30 ans, qu'est-ce qui se passait? Dis-moi pour qui tu as voté, je te dirai pour qui tu votes et pour qui tu voteras toute ta vie. Là, en l'espace de quelques semaines, on a des mouvements d'ampleur absolument considérables. Le perdant, je dirais la raison ou la mesure. On a quand même eu, il faut le dire, une pré-campagne consternante. c'est mon sentiment, mais je crois que c'est assez largement le sentiment des Français quand on regarde l'intérêt qu'ils portent à la campagne. Il est près de 15 points inférieur à ce qu'il était à la même période dans la campagne précédente. Et quand on regarde leur volonté de participer, d'aller voter à ce scrutin, on est près de 10 points en dessous de la campagne de 2017. Donc il y a une forme de déception par rapport à cette pré-campagne.
Natacha ?
Je pense que, en effet, ce que les phénomènes que décrit Gilles peuvent peut-être s'expliquer par deux éléments. D'abord, la destruction des idéologies politiques, c'est-à-dire, on voit bien le délitement de toute forme de structure de pensée, c'est-à-dire de projets cohérents relevant d'une famille politique. Bon, c'est évidemment d'autant plus frappant à gauche, où la quasi-mort de la social-démocratie est en train d'être actée là, sous nos yeux, même si, encore une fois, il peut toujours y avoir des résurrections fabuleuses, mais on voit bien à quel point il y a là quelque chose qui est en train de basculer. Et de ce point de vue-là, 2017 n'était qu'un moment dans cette évolution. C'était le moment où vous avez une maison entièrement infestée de termites, mais qui tient encore, et tout à coup, elle s'effondre sur elle-même, parce que depuis des années, les vieux partis de gouvernement étaient rongés de l'intérieur. Là, nous sommes dans ce moment où finalement les idéologies politiques sont en train d'exploser. Et on voit bien l'écartèlement, par exemple, de la droite qui ne sait pas de quel côté elle doit pencher, et le fait que l'un des enjeux de la campagne va être maintenant de savoir comment Valérie Pécresse construira un discours cohérent avec des tiraillements aussi majeurs. Et le deuxième élément, me semble-t-il, c'est ce qui explique ça, et qui est le sentiment qu'ont beaucoup de citoyens que, finalement, ce que leur disent les candidats ne se traduira pas en action politique, c'est-à-dire cette déception qui est pas seulement le poncif, ils nous mentent pendant les campagnes et ensuite ils
nous bercent d'illusions,
mais l'impression
ensuite, ils ne passent pas aux actes.
Oui, l'impression de plus en plus prégnante qu'il n'y a plus de possibilité de traduire la volonté des citoyens, c'est-à-dire du peuple, assemblée du peuple comme communauté politique. Et la question est de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que petit à petit, le système politique n'arrive plus à traduire cette volonté des citoyens. Et je pense que si on ne répond pas à cette question, on va continuer dans ce délitement et donc dans les phénomènes de désaffection, non seulement vis-à-vis des candidats, mais vis-à-vis de la démocratie elle-même.
Mais à la question, qui sont les gagnants, qui sont les perdants ?
J'allais vous dire, les perdants pour l'instant sont les citoyens. Si on a une élection avec une abstention qui franchit un certain cap, c'est la démocratie elle-même qui est fragilisée. Donc nous allons voir ce qui va surgir de cette suite de campagne. Est-ce qu'à un moment donné, il y aura forcément à un moment donné une cristallisation sur un ou plusieurs candidats, des phénomènes qui vont encore bouger. C'est une évidence. Mais si l'abstention reste trop forte, en revanche, ça traduira un malaise profond. Et si l'éclatement entre des candidats irréconciliables est trop grand, là aussi, c'est-à-dire que si on continue à avoir des gens qui n'arrivent pas à rassembler plus de 20 à 25% des votes exprimés, c'est-à-dire en fait bien moins si on reporte au nombre d'inscrits, c'est le signe d'un éclatement de la communauté politique.
J'insiste malgré tout sur la question des personnes, puisqu'on est en campagne présidentielle et qu'il s'agit donc d'élire celui ou celle qui présidera aux destinées de la nation pour les 5 ans qui viennent. Si on doit faire la liste des gagnants, est-ce que vous êtes d'accord qu'à ce jour, Valérie Pécresse, Éric Zemmour sont ceux qui sont le plus manifestement les principaux bénéficiaires de cette pré-campagne, Gilles ?
Perdant la gauche, les gauches, parce que tous les candidats sortent de ces 3 mois dans une situation plus mauvaise qu'au début de l'automne. Perdant, mais Marine Le Pen était sûre d'être qualifiée, elle a subi un recul assez sévère, elle est aujourd'hui menacée, mais elle résiste. Mais avec Éric Zemmour. Elle a maintenant des réserves si elle réussit à se qualifier pour le second tour, mais elle est fortement dédiabolisée avec l'irruption d'Éric Zemmour. Gagnant Éric Zemmour, mais gagnant, évidemment, il était nulle part il y a 3 mois. Il est à 14%, un peu plus de 14% dans l'enquête que nous publions aujourd'hui. Une percée inédite, mais on voit aussi les limites, son image, l'étoffe du président de la République, l'inquiétude qu'il provoque, c'est très mauvais. Valérie Pécresse, gagnante, d'abord gagnante au sens propre, puisqu'elle a gagné la primaire, mais gagnante aussi parce que là, comme souvent après d'autres primaires, elle a une percée, une poussée qui est forte, plus 7 points entre octobre et décembre. 17
dans les
points.
Sondages d'intention de vote aujourd'hui, elle est qualifiée au second tour.
Elle est qualifiée au second tour. Elle reconstitue le fillonisme de 2022, de 2017, mais avec quelques spécificités. C'est pas exactement les électeurs qui viennent de la rejoindre ne sont pas exactement les mêmes. Et je dis mais parce que il va falloir pour elle les fidéliser. Reste quand même une personne dont on n'a pas parlé ou dont on a parlé dans la première partie, qui est le
Emmanuel
président
Macron.
De la République sortant, qui demeure le favori, qui a plutôt réussi ces 3 mois, mais qui est un favori fragile.
Natacha.
Oui, je pense que c'est en effet tout ce que vient de dire Gilles est tout à fait est assez évident. J'ajouterais le fait que parmi les perdants, pour l'instant, il y a un Jean-Luc Mélenchon qui n'arrive pas à recréer la dynamique de 2017 et on verra bien ce que cela donnera. Il y a un Yannick Jadot, par exemple, qui est attaqué de toutes parts dans son propre parti. C'est-à-dire que c'est assez fascinant de voir Sandrine Rousseau faire quasiment explicitement le jeu de Christiane Taubira, de tout ce qui peut savonner la planche de Yannick Jadot. Bref, il y a là quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire qu'il y avait une fenêtre de tir pour l'écologie, pour un parti, pour le parti Europe Écologie Les Verts et pour un candidat écologiste. Et on voit tout ça se déliter. Je pense que, en effet, la question de l'état de la gauche est évidemment un sujet absolument fondamental. Certains attendent en se disant, en gros, cette élection va permettre de détruire ce qui existe et derrière, on essaiera de reconstruire. Je crois que ça nous raconte surtout, et ça me semble important à dire, l'échec des différents partis de gauche depuis maintenant 30 ans, l'échec à penser les conséquences de la mondialisation et la possibilité d'y répondre. C'est-à-dire que c'est le résultat d'une évolution qui est l'acceptation par certaines franges de la gauche, du marché, du libre-échange, avec l'idée que ça se réglerait par la redistribution. C'est-à-dire, c'est exactement le débat que nous avions la semaine dernière sur la nature même de la gauche. Et je crois que c'est tout ça qui se voit désormais de façon évidente dans le bazar et le rêve, évidemment, du Messie qui viendra sauver la gauche.
D'un mot, Gilles, avant de passer au sujet suivant.
Deux phrases. Je me méfie beaucoup de la politique de la terre brûlée. S'il n'y a rien en 2022, il peut y avoir moins encore après 2022. Deuxième phrase, il va y avoir d'autres mouvements à l'évidence dans la campagne elle-même. Et Natacha a prononcé le mot de cristallisation tout à l'heure. Ma conviction est que nous sommes maintenant dans un état de la démocratie et de la politique où il n'y a plus de cristallisation. On disait avant le mois de janvier, le mois de février, c'est le mois de la cristallisation. Maintenant, la cristallisation, elle vient le jour du vote. Jusqu'au jour du vote, il y a des mouvements.
On avait envie de parler de l'esprit de Noël. On avait envie de s'évader, de quitter un peu la question de la campagne présidentielle. Mais même Noël, l'esprit de Noël est rattrapé par la politique.
Le grand face-à-face, le duel.
L'idée que tous les élevages sont des cibles est une idée désespérante. La France est un pays qui s'est illustré par son excellence dans ces domaines-là. Je ne suis pas pour qu'on supprime nos compétences d'excellence. Je suis pour qu'on veille au bien-être animal. Le gavage d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le gavage d'hier. Hein.
Vous l'avez évidemment compris, il s'agissait du foie gras, le foie gras, sujet politique, sujet de clivage politique. Et on venait d'entendre le président du MoDem, François Bayrou, qui défendait le foie gras et avec cette déclaration que le gavage d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le gavage d'hier. C'est intéressant de voir que ce sujet qui déclenchait les passions les avive encore plus aujourd'hui. Aujourd'hui, avec le projet de supprimer le foie gras des réceptions officielles par la ville de Lyon, par exemple, on a vu les différents candidats justement à l'élection présidentielle s'engager pour ou contre le foie gras. Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Yannick Jadot. Il y a une polémique désormais national, c'est assez curieux. En tout cas, c'était intéressant de lire cette tribune de dimanche dernier dans le journal du dimanche, tribune de Grégory Doucet à Lyon, qui disait que ce n'était ni un appel au boycott, ni une mesure d'interdiction de ne pas servir de foie gras au cours des événements officiels. Le maire de Lyon s'est exprimé, le débat malgré tout continue. Comment est-ce que vous avez reçu cette déclaration, cette décision politique, Natacha ?
Premier point, finalement, je trouve ça assez rassurant que la France reste la France, c'est-à-dire un pays où la gastronomie et le partage autour d'une table sont des éléments essentiels de la sociabilité. Donc c'est très sain que l'on parle du foie gras. Deuxièmement, je pense en effet que ce serait encore plus sain et encore mieux si dans ce débat, d'abord, on s'arrimait à quelques connaissances culturelles sur ce qu'est le foie gras, d'où il vient. C'est-à-dire du fait que l'humanité connaît le principe du foie gras et du gavage des oiseaux depuis l'Égypte ancienne.
Oui, mais la question du bien-être animal est une question très contemporaine, Natacha.
Oui, mais d'accord, mais je continue. Donc ça passe par l'Égypte ancienne, puis par les Juifs, qui l'amènent en Europe de l'Est. Au XVIIIe siècle, ça arrive en Alsace. Et ensuite, largement après, le Sud-Ouest le fait avec des canards, puisqu'au départ, c'était avec des oies. Donc il y a une tradition de l'humanité qui avait repéré que les oiseaux migrateurs se gavent naturellement, et donc que ça provoque une... ce qu'on appelle une stéatose, c'est-à-dire une maladie du foie qui le fait grandir un petit peu, mais qui est une maladie réversible, puisque tous les ans, les oiseaux migrateurs donc font cette œuvre de gavage pour migrer. Donc ça, c'est un point, je veux dire, à partir de là, nous avons depuis une époque très récente décidé que le foie gras devait être un produit industriel, qu'on peut trouver dans n'importe quel supermarché à un prix tel qu'en fait... c'est absolument ignoble, ça n'a plus de foie gras que le nom, et que c'est fait dans des conditions qui sont atroces pour les animaux. Mais c'est bien la bascule vers une agriculture industrielle qui est absolument monstrueuse. Et ce qui me dérange dans la façon dont les élus écologistes prennent le problème, c'est que, en jetant l'anathème sur l'ensemble des producteurs, ils s'interdisent d'être efficaces. Parce qu'en fait, les gens qui vont cesser de consommer ces produits-là, c'est la même chose pour la viande. Ce sont ceux qui auraient pu justement favoriser des élevages respectueux au maximum du bien-être des animaux, faisant cela à petite échelle, en respectant la saisonnalité, car il y a une saisonnalité du foie gras. Or, en jetant l'anathème sur tous, eh bien, ce sont ces gens-là qui vont arrêter de consommer, donc ça va tuer les petits éleveurs qui sont artisanaux. En revanche, rassurez-vous, les industriels qui font de la merde, eh bien ceux-là, ils pourront continuer à en faire.
Gilles Finkelstein.
Alors moi, je vais aborder ce sujet-là avec une certaine prudence. Je dois reconnaître que je suis meilleur sur la consommation que sur la production de foie gras. Et je sais que ça fait partie des sujets sur lesquels il y a une polarisation passionnée des Français et certainement des auditeurs entre ceux qui sont choqués par la maltraitance animale et qui ne voient pas pourquoi ce n'est pas purement et simplement interdit, et ceux qui, à l'inverse, considèrent qu'il faut arrêter d'embêter tout le monde et respecter les traditions. Il y a à la fois une dimension politique et une dimension philosophique. La dimension politique, c'est de savoir si la politique a à s'intéresser à ce que l'on a dans nos assiettes. Et la réponse, je crois, est oui. Et même de plus en plus, pour des raisons qui tiennent à la fois à la santé, à la culture, à l'environnement. Donc, Il y a ce sujet-là qui devient de plus en plus un sujet politique avec, sur la question du foie gras, une vraie spécificité française puisqu'on est un des rares pays dans lequel le gavage des oies est encore autorisé. Il y a dans ce sujet politique, le sujet de l'écologie, où on voit quand même un certain nombre de maires écologiques qui concentrent ou qui donnent l'impression de concentrer leur action sur des symboles culturels au risque de la caricature, au détriment de la lutte contre le changement climatique, au risque d'ailleurs d'empêtrer encore davantage la campagne de Yannick Jadot. Bon, ça c'est la première dimension. Et puis je termine par la deuxième dimension, rapidement, qui est la dimension plus philosophique, dès lors qu'on considère que l'homme n'est pas un animal exactement comme les autres, donc que l'on n'est pas ce qu'on appelle un antispéciste, on peut dire que l'homme a des devoirs par rapport aux animaux. C'est vrai par rapport aux et des devoirs de nature différente selon que ce sont des animaux domestiques, des animaux sauvages ou, comme en l'espèce, des animaux d'élevage. Il y a un concept sur les animaux d'élevage, celui qu'évoquait François Bayrou dans le son que l'on a entendu, qui est celui de la bientraitance. Et donc, c'est cette question-là qui doit être traitée quand on parle du gavage des oies. Est-ce qu'il y a un gavage qui peut respecter la bientraitance des animaux? Je crois que c'est comme ça qu'il faut essayer de régler cette question.
En effet.
Bonne fête en tout cas, et on passe tout de suite au débat.